Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 5 octobre. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok. Et aujourd'hui, nous ferons un voyage en commençant par le Cameroun, puis certainement le Royaume-Uni, la Russie, et enfin la Russie, l'Ukraine, et on finira par l'Italie. Le Cameroun, c'est la journée aujourd'hui, hein, c'est pas pour rien que je fais cette émission. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enseignant dans le monde, je crois, et d'habitude, les enseignants fêtent beaucoup au Cameroun. Et ils ont décidé qu'ils feraient une grève illimitée, parce que les salaires qui leur sont dus ne sont pas payés. Ils ont reçu une avance. Vous savez, il y a eu des arriérés ici de salaires qui sont incompréhensibles. On parle de 10 ans, de 20 ans, de gens qui travaillent sans percevoir leur salaire. 10 ans étant la moyenne. Et le gouvernement, devant un mouvement syndical qu'on avait appelé « On a trop supporté », avait fait un geste, c'était, je ne sais pas, cette année, en début d'année, pour avancer une partie des salaires, et puis depuis, plus rien. Plus rien. Vous savez, en Afrique, il faut s'étonner de rien, parce que la République qui parle de l'état de droit n'est pas respectée, et c'est plutôt ici la loi du prince. Voilà, c'est le prince qui fait son bon vouloir, et quand on dit le prince, c'est pas seulement le président, c'est tout le gouvernement, chacun à son niveau. Et puis tout le grand personnel chargé de seconder le chef de l'État au niveau de la présidence, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est tellement indigne de penser déjà qu'on peut travailler sans percevoir son salaire, alors que tous ceux qui appliquent la loi du prince ne manquent pas non seulement de se salarier au-delà du raisonnable, mais en plus de piller les caisses de l'État et puis d'embaucher de façon fantaisiste pour payer très cher ces gens qu'on embauche de façon fantaisiste, sans compter l'influence de ces gens pour les grandes écoles, l'admission dans les grandes écoles qui n'obéit pas aussi à une logique, c'est-à-dire de méritocratie, mais de soutien d'un influenceur, d'un prince, et puis vous passerez tous les examens que vous voulez, vous deviendrez médecin, vous deviendrez grand fonctionnaire, commis de l'État, vous deviendrez ci et ça. Bon, que l'enseignant ne soit pas payé, c'est une chose stupéfiante. Chose stupéfiante, et c'est des enseignants du secondaire et du primaire. C'est une chose qui fait mal, parce que d'autant plus qu'on entend que, sur un plan humain bien sûr, mais l'Afrique ne fonctionne pas à l'humanisme. Hein. Non, il n'y a pas d'humanisme en Afrique. Il y a une forme de singerie de l'esprit colonial et du colon qui continue. On appelait ça le néocolonialisme. Ça ne veut même plus rien dire, parce que c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain normal, constitué. Et beaucoup de ces princes sont d'anciens séminaristes, ils vont à l'église, ils financent grandement, ils subventionnent grandement les églises pour encore mieux, je ne sais pas, laissant tomber parce qu'on va toucher à l'église et l'église se croira visée alors qu'elle est instrumentalisée dans cette affaire et pour... je ne sais pas, se moquer des fidèles qui ne perçoivent pas le salaire, je ne sais pas. C'est très machiavélique et on ne comprend pas, Et la Banque mondiale, qui ne comprend toujours pas non plus, elle aussi a perdu son latin, elle a fait un rapport qui dit que les priorités du développement en Afrique doivent être consacrés à l'agriculture, à la santé, à l'éducation. Elle a donc identifié ces trois secteurs comme ceux qui allaient faire décoller le développement en Afrique. Soit, c'est bien identifié dans l'absolu, oui. C'est ce qu'il faut faire pour l'Afrique, puisqu'elle ne peut pas faire de technologie ni d'exploitation minière, alors faire cela. Mais voilà déjà l'éducation, les salaires ne sont pas payés. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, est-ce que la Banque mondiale a un plan pour cela, pour que cela ne se reproduise plus? Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on parlait plus d'un mot qui est devenu bateau, qu'on appelait la gouvernance. La gouvernance, c'était donc cet esprit calqué sur l'état de droit. Voilà, qu'il fallait suivre les procédures adéquates, codifiées par la civilisation. Mais ça, pas, c'est quelque chose, c'est un terme qui est devenu bateau, on n'en parle plus. Vous savez, dans le développement, c'est soit vous parlez des choses comme la gouvernance qui sont un code de procédure vague, soit qui dit rien au prince, hein, parce que le prince, c'est son désir. Et, hein, il est souverain, lui tout seul, et donc ça ne peut pas s'appliquer ces choses de gouvernance à lui. Alors il change de pied et on dit bah, sectoriel, allons-y secteur par secteur. L'éducation, vous voyez déjà la panne de l'éducation, mais au-delà de cela, parce que les enseignants, ils continuent à faire ce qu'ils peuvent, mais depuis un certain temps, avec le Covid, on a des élèves qui ont la moitié du programme, hein, il ne faut pas non plus se voiler la face sur l'année. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Certainement des sous-appris, ou pas des mal-appris, mais des sous-appris, parce qu'ils auront un niveau CM2, machin, hein, ça ne donnera pas, comme on a distribué le baccalauréat cette année en France, vous avez vu. Donc, en se basant sur le contrôle continu, voilà. Et puis sur le fait que bah, les pauvres, ils n'ont pas eu le temps, hein, Covid, enseignement à distance. Bon, bref, l'éducation au Cameroun, par exemple, où je suis, souffre d'une concurrence sauvage du privé. Et on a donné, vous savez, ceux qui sont dans le privé, les enseignants, ils perçoivent un salaire de misère, mais il est perçu. Et ceux qui sont dans le public ne perçoivent pas. Ce sont des choix qui sont des choix du prince, où le privé a pris une ampleur tellement considérable que le secteur public ne remplit plus ses missions. Vous avez les moyens, vous les avez pas, vous créez une école, et puis on ne sait pas trop, ça coûte quoi comme niveau entre le privé et puis le public. Bon, l'éducation, c'est un peu ça, c'est un charpie. On ne parle pas du reste. Et au niveau de la santé, c'est pareil. Oui, il faut la santé, il faut la santé, mais c'est pareil. Il n'y a pas d'hôpitaux, mais quand les hôpitaux sont là, ils sont très peu. Et quand ils sont trop peu, ça veut dire qu'ils sont submergés. Et qui plus est, on va pas parler de la formation des médecins, non, on ne dira rien. Et qui plus est, il faut payer. Il n'y a pas d'assurance maladie. Donc, on va développer la santé. Peut-être que ça veut dire qu'on va faire l'assurance maladie. Peut-être que ça veut dire qu'on va construire plus d'hôpitaux, qu'on va les équiper, etc., etc. Choses qui sont dites depuis des décennies et qui sont toujours réalisables. Après, la Banque mondiale parle de l'agriculture. C'est pareil. Pardon, l'agriculture, j'y suis. Il n'y a pas d'infrastructure, les routes, mais c'est voilà, c'est un désert. Et quand il pleut, c'est une mare boueuse. Comment vous pouvez développer l'agriculture si les gens ne vendent pas? C'est une chose. Et en plus, enfin, ne vendent pas, s'ils ont tellement de difficultés à se déplacer, ça crée, je veux dire, un climat où on s'investit pas trop parce qu'on ne sait pas trop comment on va écouler les produits et le marché n'est même pas organisé. Il s'organise comme il peut, dû justement au manque d'infrastructures qui réduisent la mobilité et ont tendance à faire que les intermédiaires bah, se sucrent sur ceux qui ont cette volonté réduite, cette marge de manœuvre pour les déplacements très réduite. Et il y a pire dans l'agriculture. Vous avez beaucoup de mal à trouver des employés sérieux pour travailler. Et ça va nous poussé dans le domaine économique où, vous savez, un patron, moi, avant, je voyais les choses du point de vue de celui qui est employable, comme disait monsieur le président Chirac. Mais une fois que vous passez de l'autre côté la barrière, vous trouvez les patrons, vous êtes responsable d'une exploitation, vous avez besoin des gens pour travailler et vous avez une question psychologique qui arrive très vite. Je ne sais pas si c'est la même qui est posée en France, mais probablement avec des ressorts différents. L'employé, quand il vient, surtout en Afrique, hein, bon, il vient parce qu'il a faim, en gros, hein, c'est ça, parce qu'il est dans le besoin. Il vient pas parce qu'il a eu quelque chose à donner ou à prouver ou à bien travailler. C'est pas son problème. Il a faim d'abord, et donc pour assouvir cette faim, il vient travailler. Donc c'est un peu déjà une corvée incroyable pour lui. Donc il fait du mauvais travail. Il fait à peu près, il fait ce qu'il peut. Il s'investit pas. Ça le concerne pas. Il attend sa paye. Et donc vous prenez un retard fou. Et quand vous essayez de parler, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que ces gens-là viennent, il se trouve qu'ils se disent que bah, c'est vous qui avez besoin d'eux, eux, ils n'ont pas besoin de vous, parce qu'ils ne sont pas dans une démarche du développement territorial, ce n'est pas leur problème, ni dans une démarche de développement personnel, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'immédiateté de la faim, ils ont faim. L'urgence du besoin, je ne sais pas lequel, peut-être médical, peut-être payer le loyer. Alors, ils sont pris par ces besoins primaires, en sorte qu'à un moment donné, la perversité humaine arrive, ils commencent à vous faire une sorte de chantage dans le travail, c'est-à-dire qu'on le ralentit, on le sabote, il y a plusieurs façons de faire, et vous vous plaignez, et puis peut-être l'absentéisme arrive, ils vont voir ailleurs, ils jouent, voilà, ils jouent les patrons les uns contre les autres, ils jouent à la concurrence, et puis au fur et à mesure, si vous insistez, ils sont prêts à abandonner le chantier pour vous faire souffrir pour rien. Donc du coup, et en même temps, ils volent. Alors, c'est la même chose. Ils essayent après, pendant que vous les payez, de voler de partout, hein, chez tous les patrons chez qui ils passent. Et ça fait que on a une chaîne, comment j'allais dire, vicieuse de vices au niveau psychologique, dans la psychologie du travail. Qui défavorise en fait le patron. Vous voyez, le patron, il arrive, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui investit, c'est lui qui a la force. Mais après, si vous ne faites pas attention, vous verrez que c'est le travailleur qui veut prendre le dessus parce qu'il ne s'occupe pas du fait que lui aussi, il est dans un échange où il reçoit aussi quelque chose, c'est-à-dire la valeur de son travail, qui va toujours à sous-estimer. C'est le jeu, toujours. Et ça complique beaucoup la donne. Et je pourrais ajouter d'autres choses hein, sur la manipulation ici de ces gens qu'on dit pauvres, qui vraiment arrêtent eux aussi de leur côté le développement de façon cynique, cynique. Et si vous venez, vous êtes de la diaspora, c'est terrible et on va vous ruiner. Ils font aussi aux élites, les élites sur place, hein, elles viennent au village et se cassent la gueule sur des gens que ces élites qu'elles croyaient simples, mais elles trouvent des gens d'une psychologie très complexe. De grands manipulateurs et des gens qui sont prêts à tout faire saborder du moment qu'eux-mêmes n'ont rien. Que voulez-vous? Ils se fichent que vous ayez et que tout le monde en ait. Ben, eux, ils regardent qu'ils n'ont rien. Donc, si vous essayez de les éduquer à la façon de travailler avec conscience, non, 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 ça va pas passer. Et puis bon, basta. Si ça peut vous créer de la peine, ben, ils seront plus ça peut vous créer la peine, plus ils seront contents. Et du coup, ils savent qu'ils iront manger ailleurs, hein, et puis voler ailleurs, et puis ça ira très bien pour eux, mais pour vous, ça va être un problème. Du coup, c'est vrai qu'en agriculture, s'il faut faire l'agriculture au Cameroun, il faut le faire en entreprise, c'est tout, avec des contrats clairs, avec des gens, des engagements, mais là aussi, ce n'est pas garanti parce que le code du travail n'est pas évident. Bon, il y a tellement de choses à faire qui implique ce qu'on appelait la décentralisation, mais qui n'a pas lieu. Qui n'a pas lieu, raison de plus pour que les populations se comportent comme elles se comportent. Alors l'économie, quand on transpose cela à ce que la Grande-Bretagne essaye comment on va dire, d'explorer ces jours-ci, où la première ministre, Liz Truss, et son chancelier, Kwarten ont eu des problèmes parce qu'ils ont voulu réduire la taxe, les taxes pour les riches et les impôts de 45%. Oh, scandale, c'est trop, parce qu'en ce moment, ces gens-là font des super profits et pourquoi on va encore leur accorder une baisse des salaires, enfin une baisse d'impôts qui va les enrichir plus au détriment de la classe, j'allais dire ouvrière et les classes moyennes. Non, 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 non. Moi, bon, évidemment, le dit ainsi. Et ça paraît logique, d'autant plus que le marché accompagne tout cela par une baisse du pound. Bon, mais quand on regarde de très près, on se rend compte de quoi? Qu'il est possible, c'est une expérience à faire, même si en France on l'a fait, ça a échoué, il est possible que si le patron a plus d'argent avec lui, il a une marge de manœuvre plus importante, si le patron, le patronat, et qui... On peut parier, peut aboutir à plus de création d'emplois. Vous voyez, c'est un cercle. Là, ils ont parié sur le cercle vertueux des choses. Bon, on est habitué, malheureusement, à ce qui a été fait en France, où on a accordé des avantages fiscaux à des restaurateurs, par exemple, qui étaient censés embaucher, qui n'ont pas embauché. Et à des entreprises aussi, une baisse d'impôts, les zones franches, les niches fiscales, mais qui n'ont pas non plus donné un résultat positif en termes d'emploi. Donc, et puis on a M. Macron qui a fait carrément une réduction, une suppression, je crois, de l'impôt sur la fortune, qui équivaut à peu près à la taxe qui est proposée par le Royaume-Uni. Et vraiment, les marchés ont réagi de façon très hypocrite parce que lorsque la France le fait et il n'y a pas d'écroulement, mais lorsque c'est le tandem Liz-Truss-Quartin qui le fait, ben, voilà, les marchés se plaignent, oui, mais voilà, le problème c'est quoi? C'est que si on baisse les impôts, là c'est l'orthodoxie hein, économique qui arrive, si on baisse les impôts aux riches, il faudra bien que le gouvernement trouve cet argent et qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir au marché pour emprunter l'argent, mais ben, eux les marchés, eux ils veulent pas donner cet argent parce qu'on ne sait pas trop comment ça sera payé et surtout que ça risque d'être payé sur du long terme, mais ils veulent pas de ça. Ils veulent du short terme, là, tout de suite. Et ça n'a pas fonctionné par rapport à cette manipulation financière. Non pas parce que c'était pas possible, que l'expérimentation n'était pas possible ou souhaitable, mais parce que eux, les marchés, ils n'attendent pas. Il faut que leur argent revienne très vite. Et là, il n'y avait pas de garantie de retour de cet argent, surtout que probablement on allait baisser aussi les impôts pour... les classes laborieuses, et puis il y a des subventions qui étaient promises pour, qui sont appliquées pour l'énergie, le coût de l'énergie pour les ménages. Donc tout ça fait que les marchés ont jugé que c'était un gouvernement probablement trop dépensier, et donc ils ne sont pas très sûrs de du retour sur investissement, enfin sur prêt. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en faisant cela, ils se disent que ben, les patrons ne vont pas créer de l'emploi. Vous voyez comment on envoie des messages. Et les populations tombent dessus à bras raccourcis en disant, ah oui, c'est trop, ils ont déjà, se sont engraissés, etc., etc. Ils ne voient pas que le marché les manipule et ça ne peut pas marcher parce que c'est le marché qui veut dicter ses règles. Le marché dit, il faut aller doucement. Il faut aller doucement dans les mesures, il ne faut pas nous déséquilibrer. Je ne vois pas à quel niveau ils sont déséquilibrés parce que leur travail, c'est quand même de prêter de l'argent. Et si le Brexit avait une raison, c'était justement que la banque, Bank of England, ait cette marge de manœuvre pour le gouvernement de créer la monnaie quand il y en a besoin. Bon, alors là, c'est l'Europe encore qui a rattrapé à travers le marché financier l'évolution des mesures gouvernementales au Royaume-Uni. C'est très fort, hein, vous voyez, parce que on arrive à cette perversité du système où il y a des choses qui rattrapent les bonnes consciences ou les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place. Et ces choses-là ne sont pas toujours avouées. Vous aurez par exemple les médias qui sont passés tout de suite et qui ont dit oui, mais il faut que le chancelier Kwarteng démissionne. Bah oui, et que c'est humiliant pour la première ministre parce qu'ils ont dû faire marche arrière puisqu'ils n'ont pas prévu le plan de communication qui allait avec. Donc les populations n'ont pas tout compris et les médias ont dit oui, ben ça, ils ont voulu les faire passer pour des amateurs. Et de suicider, de travailler un peu sur la bonne conscience, fausse bonne conscience des Britanniques pour sanctionner ce gouvernement, etc. etc. Bon, évidemment, l'opposition monte au créneau, le national-socialisme. Bon. Tout ça vous crée ce que j'essaie de dire ici au Cameroun sur le plan économique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais sans encadrement, comment on va dire, honnête de l'État, ces choses finissent par ne pas être faites. Et qui plus est, si c'est le marché qui dicte maintenant les conditions de l'évolution démocratique, c'est encore pire. On est, comme j'allais dire, dans la merde. Bon, l'Istros va poursuivre quand même son. Bon, ils ont dit qu'ils allaient tenir leur agenda, hein, et évidemment, dans le cadre des restrictions de l'orthodoxie. Des marchés. Alors c'est curieux parce que maintenant c'est le marché. On a là un exemple clair de l'influence du marché sur la démocratie. Mais c'est ainsi. Le Brexit, qu'est-ce qu'il devient? Parce que si le Brexit ne signifie pas que la Bank of England peut faire autre chose, peut faire différemment que la Banque européenne, on ne sait pas. On va nous dire non, non, c'est global, comme la pandémie était globale, comme la guerre en Ukraine est globale. Mais la guerre en Ukraine, parlons-en de ces effets qui arrivent autour. Le général Patrios, qui a beaucoup, je ne sais pas comment on a dit, Patrios, c'est pas ça le nom, en retraite, qui a sévi pendant l'Irak, est sorti, il a promis l'apocalypse. Hein, si les Russes, si la Russie utilisait l'arme nucléaire, ils allaient détruire toute l'armée russe. Si et si et si et si et si, beaucoup de conditions. Vous savez, pendant la guerre, il y a aussi la communication qui va avec. Et plus, elle est, comment on va dire, on monte les enchères. Hein, c'est ça la communication. On essaie de se montrer qu'on est plus fort en parole. Bon, la réalité du terrain dira. La réalité du terrain est durable. D'abord, on ne pose pas les vraies questions. Qu'est-ce que l'OTAN fait en Ukraine? On ne sait pas. Mais on finit par le savoir lorsqu'on regarde autre chose que la guerre elle-même. C'est que si on se réfère à ce qu'on appelle l'annexion, ce n'est pas l'annexion, au transfert des populations qui ont préféré rejoindre la mère patrie, on est un peu comme ça, comme... une transposition du conflit israélo-palestinien. Voyez, on a entre l'Ukraine et la Russie ce qu'on ne dit pas, c'est que si ça continue comme ça, l'Ukraine va se diviser en deux entre ceux qui ont une appartenance zelenskiste, c'est-à-dire juive, et ceux qui ont une appartenance slave. Donc se rejoue là-bas le conflit israélien-palestinien, c'est-à-dire ceux qui sont, je sais pas si j'ai dit le mot juif, ça va peut-être gêner, mais c'est un peu ça, qui sont israélites, voilà, on va dire comme ça, contre ceux qui étaient là, je sais pas où ils étaient pas là, mais qui viennent quand même, qui sont russes. Et cette démarcation-là, on l'a vu agir dans le fait que les gens reviennent vers la Russie. C'est pas parce que la Russie est forcément en train de gagner la guerre, mais c'est parce que l'Ukraine était un composite de ces deux entités-là. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a une entité qui veut imposer ses valeurs aux autres de façon princière, vous voyez, je me fais du prince maintenant, et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que c'est la même démarche qu'on voit au niveau de l'OTAN, qui va transposer sa vision du monde au monde entier, c'est-à-dire que après tous les petits pays que vous connaissez, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, on va maintenant s'attaquer à la Russie parce que la Russie monte en puissance et peut proposer une alternative en termes de modèle de gouvernance, de coopération, de d'être au monde psychologiquement, de respect des valeurs morales. Et ça, l'OTAN n'en veut pas parce que d'inspiration israélite, eux, ils conçoivent le monde comme quelque chose, comme un monopole qui leur a été déjà donné par le droit divin, monopole de droit divin, et qui finit par être en pratique le contraire de ce que le droit divin prescrivait. Ça prescrit quand même de le partage, ça prescrit quand même de respecter l'autre, ça prescrit quand même qu'on serait valorisé en fonction de notre travail. S'il se trouve que la Russie fait mieux que les États-Unis aujourd'hui, parce que les États-Unis ne font que dans la spéculation financière, du genre qu'on a vu, hein, avec qui s'est manifesté avec l'Istros, au lieu de travailler. Et si les autres travaillent, ben, ça leur plaît pas. Bon, en fait, tout ça est contre même les principes chrétiens, contre le droit divin dont se réclame l'OTAN, ou plutôt ceux qui soutiennent l'OTAN. C'est incompréhensible, pareil, comme les instituteurs non payés. Le gazoduc qui éclate, bon, forcément, l'explosion, je crois que les Russes l'ont anticipé déjà en arrêtant les livraisons de carburant, parce que c'est les mêmes, c'est le même schéma. Je veux dire, on a des gens qui sont supposés être les maîtres du monde, mais qui ont des comportements de voyous. Parce que c'est pas comme ça qu'on peut faire la guerre aujourd'hui, comme on la faisait avant, par le sabotage. Mais c'est aussi une pratique de l'OTAN, de générer des groupes terroristes, de les former pour venir renverser des États et des chefs d'État. On a vu ça en Libye, on a vu en Irak, on a vu en Afghanistan, on voit un peu partout. Et aujourd'hui où ça s'est vu qu'on utilise les terroristes pour cela, une fausse opposition, qu'est-ce qu'on fait? On utilise carrément, on prend en otage une nation. L'OTAN est planquée derrière l'Ukraine, la guerre qui se fait, c'est une guerre par procuration de l'Amérique, ou plutôt de l'OTAN, contre la Russie. Donc, tout ce que les engagements pris par l'OTAN lors de l'abolition du pacte de Varsovie, comme quoi l'OTAN, bon, tout ça est renié, il y a pas de vérité, tout ça compte pas, et on se rend compte que ceux qui se disent démocrates sont en fait enfin de vrais fascistes. Ils ont le même agenda que le fascisme national-socialiste, et les démocrates américains qui sont au pouvoir veulent accélérer les guerres et les conflits parce que probablement que Trump peut revenir au pouvoir, ou alors les républicains. Et les républicains n'ont pas fait de guerre du tout. Au crédit du président Trump, il n'y a pas eu de guerre. Et comme il n'y a pas eu de guerre, l'agenda de l'OTAN a été ralenti et même sa justification en tant qu'institution a été remise en cause parce qu'il n'y a pas de guerre. Alors, on est toujours là aussi dans des situations incompréhensibles qui font que, bah, on a eu ce qu'on a eu en Italie, l'élection de Madame Giorgia. Carrément, ce qu'on appelle l'extrémiste national, ça n'a plus de sens puisqu'on voit bien que les démocrates sont pires dans l'exercice du fascisme, et que ils s'appellent démocrates. Ils sont pas démocrates, c'est le fait du prince. Ils sont pas démocrates, c'est des gens qui sont pour la guerre. La démocratie, les démocrates étaient pour le progrès, ils étaient pour la paix, ils étaient pour la méritocratie, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Tout cela, ils ont jeté aux orties et ils s'occupent de faire de la guerre, de s'enrichir par la guerre en détruisant les autres. Mais la démocratie n'a jamais été la destruction. Non. On est très perturbés. Les consciences humaines ne suivent plus trop parce que les gens se sont donné des identités falsifiées, alors que des identités corrompues, en fait, irréversibles, en fait. Quand on vous dit démocrate, mais regardez l'arrière, c'est pas le démocrate. Et quand on dit républicain, on vous dit, oh là là, c'est des terroristes, c'est des patriotes, parce que le patriotisme est devenu un défaut, puisque l'OTAN a un agenda antipatriotique, c'est-à-dire antinational. C'est un instrument de ce qu'ils appellent du monde sans frontières, hein. Donc, quand un monde est sans frontières, c'est un monde sans identité, c'est un monde qui est décivilisé, c'est un monde où c'est la loi du plus fort qui s'applique. On est en plein monde nietzschéen, c'est des Nietzsche, ça, c'est très bien. Mais sauf que, à un moment donné, quand même, si l'être humain est vraiment à l'image de Dieu, il doit avoir une conscience. Il y a des gens qui s'y opposent. La France insoumise s'oppose à ce genre de choses, et c'est très bien. Et l'Italie, elle est dans l'Europe, mais psychologiquement, elle s'y est opposée, elle a manifesté son opposition, et ça va être important de suivre l'Italie dans son rapport avec ses réformes et la réaction de l'Union européenne. Ça va être très intéressant. C'est vraiment une affaire à suivre, y compris la Grande-Bretagne et la Russie, vraiment les trois zones qui vont configurer la face du monde. Merci à l'OTAN. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Amis de Radio Silence, je pouvais ajouter des choses, à quoi ça sert, à quoi ça sert? Nous vivons quand même une période, moi je pense, hein, c'est une période de transition parce qu'on arrive déjà à lire très bien dans le jeu des acteurs. On voit très bien comment la démocratie a été complètement prise en otage par le complexe industriel et militarisé de l'Amérique, et qui fait que l'agenda qui consiste à importer l'immigration de façon massive, façon frontière au Texas sans arrêt, sans explication, il s'avère que ces gens qui passent, dans beaucoup de ces gens qui passent, il y a beaucoup de dealers et de narcotrafiquants. Vous voyez? Où va le monde? Mais on ne comprend pas pourquoi tout cela est fait, on ne comprend pas. Est-ce de la distraction pour cacher quelque chose d'autre? Ça ne serait pas étonnant. Et le chancelier Quarten fait bien de dire il faut éviter la distraction de cette taxe de 45%. Qui a été rejeté comme ça par les marchés, il a pris ça pour une distraction. Effectivement, c'est une distraction parce que le vrai problème est ailleurs. Et les médias qui sont chargés de protéger l'agenda de l'OTAN n'en parleront jamais. Bon, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous souhaite de très bonnes choses, un très beau mois d'octobre et à bientôt. Hit my